franceinter.fr.
France Inter, le 6-9 de l'été.
Et en ligne avec nous, Christophe Ventura. Bonjour Christophe Ventura.
Bonjour.
Christophe Ventura, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, vous êtes aussi chercheur à l'IRIS et à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 7. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le Brésil est-il selon vous vraiment prêt à recevoir les Jeux ?
Oui, globalement oui, malgré effectivement un certain nombre de retards ou de travaux qui n'ont pas été bien finalisés, qui vont poser quelques problèmes au démarrage, mais qui vont normalement vite être oubliés une fois les jeux lancés.
En même temps, les installations, elles sont pas toutes encore à la hauteur. On voit la baie de Guanabara, par exemple, encore polluée.
Oui, absolument, ça fait partie des ombres au tableau. Il y a ça, il y a le métro de la fameuse Inca dont on entend parler beaucoup. Il y a la piste cyclable aussi qui s'est quelque peu effondrée. Les travaux ont été faits en précipitation, parfois dans des conditions qui sont pas bonnes du point de vue de la sécurité, à commencer pour ceux qui les ont faits, pour les ouvriers, et du point de vue des normes. Bon, ça fait partie des ratés du début de ces Jeux, mais je pense encore une fois que cela ne va pas contrarier le déroulement de l'événement.
En fait, quand je vous posais la question, Christophe Ventura, le Brésil est-il vraiment prêt à recevoir les Jeux ? Il y a un contexte économique, politique. On sait par exemple que la cérémonie d'ouverture au stade Maracana ce soir aura lieu sans Dilma Rousseff, sans Lula, mais avec Michel Temer qui, lui, se dit prêt à d'éventuels sifflets et huées. Donc, c'est ça la question. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler vraiment de fête ?
Oui, ça c'est le fond du sujet. Le contexte dans lequel se déroulent les Jeux Olympiques est préoccupant. Le pays vit sa plus grave crise démocratique et politique depuis le retour de la démocratie en 1985, tout simplement. En plus de cela, une crise économique très très forte. Le pays connaît une contraction de son économie de 3 à 4 points, la plus forte depuis des décennies. Donc c'est ça le contexte. Aujourd'hui, Michel Temer est un président par intérim qui n'a pas été élu, qui est fortement impopulaire, plus impopulaire encore que Dilma Rousseff l'était il y a quelques mois. La crise est totale et donc le pays vit dans ce contexte-là les Jeux. Donc c'est vrai qu'ils ont prévu que peut-être son arrivée se ferait sous les sifflets. Il faut ajouter aussi le peu de présence de présidents internationaux à ces Jeux. C'est très très faible, peut-être les plus faibles de l'histoire. Évidemment, nous on voit le cas européen, mais il faut savoir qu'il n'y a aucun président d'Amérique du Sud. Alors que c'est la première fois que les Jeux sont en Amérique du Sud, mis à part les alliés politiques de M. Temer, en l'occurrence M. Mauricio Macri, président de l'Argentine et le président du Paraguay, mais ce sont les seuls représentants présidentiels d'Amérique du Sud pour ces Jeux. Donc effectivement, c'est le contexte politique dans lequel ils se déroulent.
Ça c'est le constat, mais comment on en est arrivé là ?
D'en arriver là par une crise qui désormais s'inscrit dans un temps assez long, puisque le pays vit une crise économique. C'est d'abord ça le problème du Brésil aujourd'hui depuis 2013.
C'est une crise qu'ils n'avaient pas anticipée, les Brésiliens ?
Non, c'est une crise qu'ils n'avaient pas anticipée, comme tous les pays de la région d'ailleurs, et qui est liée directement, si vous voulez, aux conséquences de la crise des subprimes de 2008, donc ça remonte un peu loin. Mais l'effet, c'est que pour tous les pays exportateurs de ressources naturelles et matières premières, ce qui est le cas du Brésil, le Brésil est d'abord un exportateur sur les marchés mondiaux de produits agricoles et de matières premières. Et bien le retournement de cycle qui a fait que la demande mondiale s'est effondrée, que les cours des matières premières s'est effondrée également, a impacté directement l'économie de ce pays qui était en croissance importante. Donc ça c'est le premier problème, il n'a pas été anticipé politiquement. Le second c'est que ça a créé une crise sociale importante avec un retour du chômage, une explosion de la pauvreté.
Classe moyenne aussi qui se rebelle.
Voilà, absolument. Et les classes moyennes qui ont beaucoup bénéficié dans les années 2000 des politiques de Lula en particulier, eh bien, ont commencé à être un plafond de verre et ont exigé plus d'infrastructures, plus de mobilité sociale, plus de mobilité physique, d'une meilleure éducation, ce que le gouvernement n'était plus en mesure de donner dans un contexte de dégradation de l'économie internationale. Et cela a débouché sur une crise politique sur laquelle a surfé la droite pour en quelque sorte instrumentaliser les problèmes de corruption qui sont existants et défaire par la voie, par un coup de force judiciaire, juridico-institutionnel, la présidente élue en 2014, qui n'avait pas été battue malgré tout cela par cette droite brésilienne.
Tout en sachant, Christophe Ventura, que la corruption concerne l'ensemble des partis.
Absolument, et d'ailleurs plus un certain nombre de partis qui sont à droite que le Parti des Travailleurs lui-même, puisque c'est un système qui, donc en gros, pour les auditeurs, qui ressemblerait à ce qu'on a connu en France il y a quelques années avec l'affaire Elf. Au fond, c'est ça, l'affaire Petrobras, dite Petrobras, c'est-à-dire un système de surfacturation vers des entreprises publiques qui remettaient des commissions aux partis politiques, parce qu'il faut comprendre qu'au Brésil, le fond du problème est que tout le système politique est financé quasiment exclusivement par le secteur privé. Donc, si vous voulez, c'est un système qui induit la corruption comme un mécanisme au cœur de la vie politique.
Dernière question, Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine. Le Brésil, on a parlé de la politique, on a parlé de l'économie. Il y a aussi un dernier problème, la sécurité avec une criminalité qui est en hausse, notamment ces derniers mois à Rio.
Oui, Rio est la ville du Brésil qui a un triste palmarès, celui dans lequel les assassinats ou les morts par affrontement avec la police sont les plus importants au Brésil, c'est pas nouveau. C'est le pays dans lequel il y a le plus de problèmes de ce point de vue-là. Le choc entre les forces de police et les favelas et les bidonvilles est très violent en général. Et donc, dans ce contexte-là, et de recrue de la pauvreté et des problèmes économiques, évidemment, ça, hélas, stimule tout ce type de problèmes de résurgence, de délinquance, etc.
Christophe Ventura, est-ce qu'on peut parler, pour terminer, certains parlent de jeu de l'exclusion, est-ce qu'on peut dire ça pour les jeux de Rio ?
Bien, je pense que oui et non, parce que il est évident que ces jeux se passent dans un contexte d'un pays qui est le Brésil, qui est un pays du Sud, qui est le pays le plus où les inégalités sont les plus fortes en Amérique latine et peut-être parmi les plus fortes au monde. Donc on le savait, les jeux vont se passer, ce sera quand même une fête. Je pense que ces jeux vont plaire aux Brésiliens, qu'il y aura aussi quelque chose de très positif qui va se dégager de tout ça. En tout cas, ils mettront un peu de baume au cœur des Brésiliens dans un moment difficile pour eux. Mais effectivement, ces jeux ne doivent pas cacher la réalité de ce pays. Et aujourd'hui, en particulier, je le répète, le fait qu'il connaît la crise démocratique et politique la plus forte de son histoire, avec un gouvernement aujourd'hui qui ne dispose pas d'une légitimité liée au suffrage populaire et qui pourtant, ce soir, va ouvrir cette fête et ce moment géopolitique important dans la vie internationale.
Merci Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine et chercheur à l'IRIS, d'avoir été l'invité de France Inter ce matin.